Bonjour à vous qui nous rejoignez, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de cette dernière émission de la saison et jusqu'à 14h, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis notre invité dans une quinzaine de minutes, il est professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure, membre du Conseil Consultatif National d'Éthique. Alors que les états généraux de la bioéthique se sont terminés au début du mois et avant les discussions parlementaires prévues à l'automne prochain, faut-il faire tout ce que la science permet ? Question relancée par les progrès de la médecine et des technologies. Vous en verrez tout à l'heure les applications très concrètes. Question dont nous débattrons tout à l'heure avec le philosophe Frédéric Worms.
France Inter. Question politique, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour ce dernier duel de la saison. On va directement rentrer dans le vif du sujet et voir ces images qui ont fait le tour du monde. Elles viennent des États-Unis à la frontière avec le Mexique. Les images de ces enfants, parfois très jeunes, séparés de leurs parents, encagés dans des centres de rétention. Et puis mercredi, décision surprise, volte-face, a-t-on dit, de Donald Trump qui a signé un décret qui interdit de séparer les familles entrer illégalement aux États-Unis par la frontière mexicaine. Écoutez le président américain.
Beaucoup de gens vont être heureux. Ça fait 60 ans que ça dure. 60 ans que personne ne s'en est occupé. Que personne n'a eu le courage politique de s'en occuper. Mais nous allons nous en charger. Nous aurons donc des frontières fortes, très fortes, mais nous garderons les familles unies. Je n'aimais pas voir les familles être séparées. Donc nous gardons les familles ensemble et ça va régler ce problème. Et en même temps, nous gardons une frontière très forte et nous continuons notre politique de tolérance zéro. Nous n'avons aucune tolérance pour les personnes qui entrent illégalement sur notre territoire.
Et en même temps, est-ce que Donald Trump s'est converti au macronisme, Natacha ?
Je pense qu'il nous a surtout fait un numéro de communication politique, dans le sens où tout cela n'est qu'un ignoble chantage qui utilise des familles, des enfants. Et de bout en bout, on est dans le chantage politicien. En fait, ce qu'a dit Donald Trump au départ, et d'ailleurs ce qu'a confirmé Melania Trump, ça a été interprété ici comme un désaveu pour son mari, ça n'en était absolument pas un.
La première dame qui s'est rendue en visite express à la frontière du Texas avec le Mexique.
Oui, mais qui a surtout fait déclarer d'abord par sa directrice de communication, qu'elle était émue du sort des enfants, etc., mais qu'elle espérait que très vite, on voterait la réforme au Congrès pour empêcher cette situation. L'idée était de dire que c'était les démocrates qui étaient responsables de cette situation, puisqu'ils ne votaient pas les textes voulus par Donald Trump.
Expliquez-nous quand vous dites chantage à quoi ?
Chantage au fait que l'idée était de dire, en gros, cette situation résulte de l'absence de solution dans la gestion des familles qui arrivent avec des mineurs et qui entrent clandestinement aux États-Unis. Et le discours de Donald Trump était de dire, mais nous sommes obligés de retenir les enfants à part parce que nous n'avons pas le droit, en fait, dans les textes actuels, de retenir des accompagnants d'enfants, etc. Bon. Et du coup, l'idée était de dire, cette situation se réglera quand on mettra tout le monde dehors, grâce à la réforme qui doit être votée. Donc on était dans une bataille politicienne, et Donald Trump n'a fait volte-face que parce qu'il s'est rendu compte que dans son propre camp, il était mis en difficulté et que ça risquait de lui poser quelques problèmes aux élections du mid-term dans quelques mois.
Parce que je ne sais pas s'il y avait un tel plan, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les images ont déchaîné une telle indignation aux États-Unis qu'il avait un problème avec l'électorat républicain lui-même, selon les sondages, et qui n'assumait pas du tout la traduction dans les faits d'un discours que par ailleurs ils assument sur la fermeté que prône, et parfois même dans des termes cruels, Donald Trump. Et donc il y a eu là une volte-face qui était liée aussi à la puissance de l'indignation dans l'opinion américaine. Et on arrive finalement à quoi ? On arrive à une situation où des enfants vont être enfermés avec leurs parents, et qui est en fait calqué désormais sur la situation française, parce qu'en France aussi, il y a des enfants dans les camps de rétention, simplement on ne les séparait pas, et aux États-Unis on le faisait.
Aux États-Unis, parents et enfants seront désormais détenus ensemble, comme c'était le cas auparavant, durant une période maximale de 20 jours pour les mineurs. Donc ce qui se passe aux États-Unis, pour vous, non seulement se produit en France, mais...
Pas la séparation, ça c'était un cas spécifiquement américain, mais la situation où des enfants sont en camp de rétention se produit quotidiennement en France et à la frontière avec Vintimille se produit constamment. Il y a une violation constante des droits et de la Constitution française, enfin du droit, qui est qu'un mineur a le droit à l'accueil sur notre territoire. Et non seulement c'est pas appliqué, mais en plus on va dans des excès inverses, c'est-à-dire que on les rejette avant même qu'ils puissent faire leur demande et on les renvoie en Italie. Donc c'est bien de s'indigner de ce qui se produit aux États-Unis. Il faut quand même avoir conscience que les mêmes problèmes se posent en France.
Natacha,
je pense que l'indignation, l'émotion ne font pas une politique. Mm-hmm. Le refus de voir les réalités, le déni et l'égoïsme n'en font pas une non plus. Et que une fois qu'on a été ému par ces images d'enfants en larmes traumatisés, il faut essayer de penser tout cela et de penser ce qu'est la possibilité pour un territoire d'accueillir ceux qui peuvent l'être dans des conditions décentes, mais aussi de décider qui a vocation à rester sur son territoire et qui ne l'a pas.
L'indignation ne fait pas une politique, je suis complètement d'accord. Le refus a priori de s'indigner non plus.
Exactement. Donc c'est ce que je viens de dire.
Mais là, l'indignation a eu des effets politiques.
Qui a eu des effets politiques. Et d'autre part, bien sûr qu'un État, une nation peut décider de qui a le droit de rester sur son territoire ou non. Mais ce qui est certain, c'est qu'un État, en particulier un État de droit, a comme mission d'abord d'appliquer ses propres lois et d'appliquer les conventions qu'il a signées. Or, le fait est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la quasi-totalité des États européens ou américains violent leurs propres droits. Sur la question des migrations.
Bien sûr, à ceci près que l'état de droit implique que l'on décide quel est le droit et que l'on vote des lois. Et ce droit est donc évolutif. Et il doit évoluer en fonction des situations. Or là, nous voyons bien que nous sommes dans une phase de bouleversement de l'Europe et qu'il faut décider comment notre droit doit répondre à une situation spécifique qui n'avait pas été anticipée jusqu'à présent.
Mais encore un mot sur les États-Unis. J'ai délibérément commencé avec les images, ces images qui ont sidéré, choqué, indigné. Ce que vous dites, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on peut appeler la dictature de l'émotion.
C'est-à-dire que je pense que je ne supporte ni la dictature de l'émotion qui permet d'oublier que derrière... ça ne suffit pas de dire que c'est ignoble. C'est ignoble. Mais une fois qu'on a dit cela, on n'a pas réglé le problème. Mais je ne supporte pas non plus la dureté de ceux qui, au nom de la tyrannie de l'émotion, sont dans l'excès inverse et expliquent qu'il ne faut jamais se laisser toucher par des émotions. Ces images sont inacceptables, elles doivent nous toucher, mais ça doit nous obliger à penser le problème dans son caractère complexe.
Bien sûr, un mot, Raphaël, sur le sujet.
On peut penser à partir d'une émotion, et je crois, moi, que on ne vit pas aujourd'hui dans la dictature d'une empathie générée par des images qui suscitent l'émotion. Je pense au contraire qu'on finit par s'habituer en fait à ce type d'image et que finalement cela ne nous choque plus tant que cela, parce que c'est des images qu'on retrouve quasi quotidiennement désormais. En sortant de chez soi, en traversant le périph, il y a ces gens qui dorment par terre et qui sont rejetés à la rue par notre État. Et dont on ne respecte pas les droits, encore une fois, pas sur des principes moraux, mais selon le droit français.
Il y a le fait de la semaine qui, pour vous, Raphaël Glucksmann, concerne un écrivain italien, Roberto Saviano. Roberto Saviano qui est menacé de mort par la mafia et qui est maintenant menacé aussi d'être privé de sa protection policière par Matteo Salvini, le tout nouveau ministre de l'Intérieur d'extrême droite italien. Et tout simplement parce que Roberto Saviano a critiqué la politique migratoire du gouvernement italien. Écoutez-le, Roberto Saviano, répondre aux menaces du ministre de l'Intérieur.
Salvini, tu crois que je suis heureux de vivre comme ça depuis 11 ans, sous escorte policière depuis 26 ans? Tu penses me menacer, m'intimider? Ces années, je suis sous une pression énorme, la pression du clan des Casalesi, les narcotrafiquants mexicains. J'en peux plus de vivre comme ça. Et donc, tu crois que je peux avoir peur de toi? Bouffon. Salvini a été élu en Calabre. À son élection, à Rosarno, au premier rang, il y avait des hommes de la famille Pesce, historique famille de la 'Ndrangheta, affiliée à la famille Bellocco, puissante organisation de narcotrafiquants. Et il n'a rien dit. Ce n'est pas ça notre République. Mettons Salvini dehors.
Raphaël.
Oui, c'est un écrivain menacé de mort qui critique publiquement une action gouvernementale. Et la réponse, c'est pas une réponse politique. c'est une réponse qui foule aux pieds l'ensemble des principes de l'état de droit, encore une fois. C'est-à-dire, c'est « Ah ben, du coup, on va revisiter son cas et sa protection policière. » C'est là un glissement extrêmement dangereux. Il faut tous qu'on en ait conscience, parce que si ça se passe en Russie, on peut dire « Ah oui, mais c'est en Russie ». Là, ça se passe en Italie, membre fondateur de l'Union européenne et notre voisin bien-aimé. Et c'est proprement scandaleux, c'est-à-dire que c'est un chantage à la sécurité. Et la réponse de Saviano me semble extrêmement courageuse. Il faut qu'on exprime tous notre solidarité, et extrêmement courageuse. Et par ailleurs, très vraie, parce que les liens entre la Ligue du Nord et la mafia... C'est quelque chose qui est un secret de polichinelle en Italie. Les gros bras des partis d'extrême droite liés au crime organisé, c'est quelque chose qui est ancré dans le paysage italien.
Natacha.
En effet, alors l'Italie est un état de droit et donc ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui décide des protections policières. Il y a une commission indépendante pour cela. Donc Matteo Salviani peut en effet jouer les gros bras de façon absolument abjecte. Il ne parviendra pas à mettre en danger Roberto Saviano. Simplement, je pense que, et en effet, Saviano a raison de répondre sur la question des liens avec la mafia. Je pense que je ne partage pas la vision qu'a Saviano de la question de l'immigration. Le texte qu'il a publié dans Le Monde cette semaine semble totalement caractéristique d'une forme de moralisme à gauche qui a permis à Salvini et aux autres d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire, pendant des années, on s'est contenté de dire que ce n'était pas bien de pas accueillir. Et le discours de Saviano va dans ce sens. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème avec la question migratoire et que donc ce n'est que le racisme, la xénophobie qui crée ce problème. Pour autant, l'attitude de Matteo Salvini est immonde vis-à-vis de cet homme.
Mais Saviano, il dit quelque chose d'autre dans son texte. Il dit l'Europe a laissé l'Italie seule, ce qui a produit Salvini. Et donc, il ne dit pas juste il faudrait que les Italiens accueillent le monde entier chez nous.
Il dit
qu'il faut que l'Europe ait une politique migratoire et l'Europe ne peut pas laisser l'Italie porte d'entrée. Les gens qui viennent en Italie, ils ne veulent pas aller en Italie, ils veulent aller en Europe. Et donc, cette question-là.
Ce qu'il dit, c'est qu'il faut les laisser aller partout en Europe. Et à aucun moment, il n'y a cette idée que la question est de savoir qui peut y aller, qui n'y va pas, comment, qui décide, qui peut rester sur un territoire ou pas.
On ne va pas répéter toutes les semaines, mais il y a eu 13 706 entrées en Italie par la mer cette année.
700 000 depuis 2014.
Sur un continent aussi grand que l'Europe.
Prendre les trois derniers mois est quand même une façon de biaiser les chiffres qui est extraordinaire.
C'est les six derniers mois.
Oui, d'accord, les six derniers mois.
Et combien 700 000, c'est impossible à gérer pour un continent grand et riche comme l'Europe.
Ce sont 700 000 en Italie. Alors, vous ajoutez tous les autres flux, vous expliquez qu'en effet, dans certains pays comme la France, c'est depuis 30 ans. Vous liez ça avec les problèmes d'intégration, c'est-à-dire le fait que les politiques d'intégration ne facilitent pas l'installation. Et vous comprenez pourquoi ça pose problème.
On va en rester là sur le sujet. D'un mot, Raphaël.
Non, je dis oui, il y a une vraie politique à avoir. C'est un défi qu'il faut relever. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'invasion migratoire.
Les flux sont moins forts aujourd'hui
qu'il y a 3 ans.
Enfin, vous avez vu la démographie du Nigeria. Arrêtons. Le problème est devant nous.
Et j'invite tout le monde à lire le texte de Roberto Saviano, qui donc était publié par le journal Le Monde cette semaine, avec cette phrase « Quand en 100 ans on sondera les fonds de ce petit bout de Méditerranée et qu'on trouvera des centaines de corps humains, on se demandera quelle guerre s'est jouée là. »
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et cette semaine, c'était mardi, Emmanuel Macron et Angela Merkel signaient la déclaration de Meseberg. Je ne sais pas si je le prononce bien, Natacha.
Mon avis, ça doit se prononcer Meseberg.
Meseberg,
je
déclaration
pense,
de Meseberg.
Je pense, mais ça fait longtemps que je n'ai pas
pour
pratiqué
réformer
l'allemand.
L'Europe, vous avez fait allemand première langue, Raphaël Glucksmann.
Jawohl.
Meseberg, c'était juste avant le Conseil européen qui doit se tenir à Bruxelles dans quelques jours. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en regardant les deux dirigeants français et allemands réunis à la tribune? Enfin, le président français tweetait « L'Europe connaît un moment de vérité, c'est un choix de civilisation qui est en discussion en ce moment. » Natacha, je vous sens sceptique.
Oui, mais eux-mêmes l'étaient. C'était ça qui était terrible. Ils étaient côte à côte. On sentait le ton peu assuré. On sentait une façon de contourner les problèmes et de ne pas savoir comment les nommer. Il y a des tentatives hein, dans ce qu'ont fait Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il y a des pistes qui vont dépendre ensuite de ce que décideront 28 pays qui n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a surtout là une façon pour Emmanuel Macron d'affirmer, de faire avancer le projet dont Angela Merkel ne voulait pas sur le budget européen en l'aidant sur la question de l'immigration qui la met en difficulté avec une partie de sa majorité. On est dans un donnant-donnant, mais qui n'aboutit pas à un bouleversement civilisationnel.
On est très loin. On
n'est
probablement pas dans un choix de civilisation, c'est vrai. Et ce n'est pas ça qui va permettre de répondre à la crise que traverse aujourd'hui l'Union européenne. Par contre, il faut quand même le dire, c'est une évolution claire de la part de Merkel. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas entendre parler du projet de Macron d'un budget européen. Or là, elle avance clairement dans un sens qui était difficilement prévisible il y a peu de temps. Donc si on veut que notre critique de l'action macronienne soit audible, il faut reconnaître
grâce à la CSU bavaroise, Emmanuel Macron a pu
c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est en partie grâce à la CSU bavaroise, parce que en ce moment, les grandes tractations ont lieu en Allemagne et Angela Merkel pourrait très bien, très vite, avoir besoin des Verts. Comme soutien. Or, les Verts sont...
Alors, expliquez à ceux qui nous écoutent les arcanes de la vie politique allemande, la CSU est supposée être un allié.
Ayant fait allemand premier, Merkel, la CSU a décidé, la CSU qui par ailleurs est très proche d'Orban et qui a jamais été extrêmement proche de Merkel sur la question d'immigration, a fixé un ultimatum à Angela Merkel sur la question des migrants. Et Angela Merkel a rejeté cet ultimatum. Il y a une crise qui couve depuis longtemps, mais qui va exploser probablement. Et cette crise, elle va faire qu'Angela Merkel va devoir se séparer peut-être de sa base la plus conservatrice. Et donc, chercher des alliés. Les Verts vont être l'allié naturel d'Angela Merkel. Pourquoi ? Parce que sur la question d'immigration, c'est le seul parti en Allemagne qui la soutienne de manière forcenée. Et d'autre part, parce que les Verts partagent, cette fois-ci c'est bon pour Macron, l'ambition d'un budget européen, d'une intégration européenne beaucoup plus poussée.
C'est beaucoup plus clair. Encore un mot d'attachat sur le sujet.
Un budget qui, pour l'instant, n'a pas été chiffré, qui reste extrêmement flou, et il va falloir donc regarder ensuite comment concrètement tout cela va se mettre en place, dans la mesure où, jusqu'à présent, Angela Merkel a quand même tout fait pour systématiquement torpiller tous les projets allant dans ce sens.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Le fait de la semaine pour vous, Natacha, c'est l'addiction aux jeux vidéo qui a été classée pathologie par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le gaming disorder, comme on dit en bon français, le jeu compulsif qui implique la perte de contrôle, qui peut altérer la santé mentale. Pourquoi avez-vous été interpellé par cette entrée dans le classement des pathologies de ce gaming disorder, de l'addiction aux jeux vidéo?
Je pense qu'il faut dépasser le simple sujet de l'addiction aux jeux vidéo. C'est-à-dire que où on a à peu près le même phénomène que sur le cannabis, c'est-à-dire que les adeptes des jeux vidéo, en général, ont du mal à entendre que sur la majorité des gens, ça n'est pas problématique et ça n'est pas dangereux, mais qu'il y a une petite part des consommateurs de jeux vidéo pour qui
3%
c'est dangereux.
Des joueurs d'après l'OMS.
Voilà. Alors donc à partir de là, le problème à se poser est celui des écrans en général et de la façon dont ils sont utilisés. Une enquête montrait là cette semaine que les enfants de 7 à 12 ans sont 67% à posséder une console vidéo, ce qui commence à être beaucoup. 7-12 ans, c'est quand même jeune. Et surtout 38% à posséder leur propre tablette, pas celle de leurs parents, non. Eux-mêmes. C'est-à-dire que nous élevons des enfants entourés d'écrans sans aucune limite, qui sont des écrans qui leur donnent accès à des mondes qui...
Mais c'est le progrès, Natacha, c'est le monde moderne,
alors,
on vous dira.
D'abord, je fais une différence entre le monde moderne et le progrès, puisque la question du progrès reste à poser, c'est-à-dire... Est-ce que cela nous rend plus humains ou moins humains, comme disait George Orwell ? C'est ça qui permet de décider si c'est un progrès. En l'occurrence, je vous conseille de lire le travail de Michel Desmurget, chercheur en neurosciences, qui, à propos de la télévision, a listé toutes les études scientifiques qui ont mesuré l'impact de la télévision. Parce qu'il y en a énormément. Vous voyez la corrélation avec la perte de vocabulaire, avec l'obésité, évidemment, les maladies, mais surtout le rapport à la langue, c'est absolument effarant. Les chercheurs américains, quand des villages étaient reliés à la télévision dans les années 50-60, venaient étudier avant, puis après, donc on a des données extrêmement précises.
Comme tous les outils, en un sens, ça dépend de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est pas la tablette en elle-même qui a un problème, c'est le problème, c'est de passer 6 heures devant sa tablette.
Oui, les 14-24 ans sont 28% à passer plus de 5 heures sur les réseaux sociaux.
Et la même chose s'applique à la télévision, parce que par ailleurs, la télévision a fait que les gens ont connu beaucoup plus de villes beaucoup plus tôt, qu'ils avaient une notion de la géographie beaucoup plus développée. Donc ça peut être un outil.
C'est un progrès.
Et je signale que l'OMS
un progrès qu'il faut mesurer.
Indique que l'addiction ne se mesure pas au nombre d'heures passées à jouer, donc il ne s'agit pas simplement d'avoir une approche quantitative.
Non, c'est le rapport au monde que cela crée. Est-ce que ça coupe du monde ? Est-ce que ça coupe des liens sociaux ?
Ça permet de rencontrer aussi des gens et de jouer avec des gens partout sur la planète.
Ah non, ça ne permet pas de rencontrer, ça permet de jouer avec des inconnus qu'on ne verra jamais. Ça ne permet pas de rencontrer qui que ce soit. Le terme rencontrer a un sens.
Vous marquez le point autre forme de jeu, puisque vous êtes tous les deux fans de foot. Jeudi dernier, l'équipe de France a battu le Pérou 1-0. Vous êtes enfin séduit par cette équipe, par les Bleus. Très rapidement, avant d'accueillir notre invité.
Par la première mi-temps, ça c'est certain.
La deuxième partie de la première mi-temps surtout.
Mais non, mais il y avait quand même un jeu d'équipe. La seule chose qu'on peut regarder, c'est quand on voit la Croatie ensuite, c'est qu'il manque Modric, quoi. Enfin, il manque un numéro 10 dans cette équipe, c'est-à-dire un clin qui fasse vraiment le lien avec l'attaque et qui respire le foot comme Modric respire le foot.
Mais on est dans le meilleur des mondes possibles, c'est pas le monde idéal.
Je pense que je ne vais pas me lancer dans une analyse des matchs. Je pense qu'on peut juste dire qu'il va être intéressant de voir l'impact de cette Coupe du Monde sur tout simplement la bonne humeur des gens.
Écoutez, pour le moment, elle est excellente, l'humeur des Français. Et c'est évidemment à suivre. On espère que ça dure le plus longtemps possible.
Et comment va l'humeur des Marocains ?
Écoutez, on s'en remet. C'est l'avantage de la binationalité. Le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Faut-il pouvoir faire tout ce que la science permet ? C'est une question qui se pose devant les progrès de la médecine et des biotechnologies. Question vertigineuse dont on va débattre avec les discussions parlementaires l'automne prochain qui vont démarrer sur la loi de bioéthique. Notre invité aujourd'hui est professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du Conseil consultatif national d'éthique. Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. Vous avez planché sur des questions qui divisent, des questions qui ne sont pas encore tranché par la représentation nationale, je pense à la PMA par exemple pour les couples de lesbiennes, des questions qui concernent la fin de vie. On va en parler tout à l'heure, mais il y a des questions de bioéthique qui apparaissent directement liées au progrès de la science. Exemple, on peut savoir qu'une personne va développer la maladie d'Alzheimer dans 20 ou 25 ans. Faut-il l'en informer alors qu'aucun traitement ne pourra lui être proposé ? On peut manipuler le cerveau avec des puces qui améliorent les performances. C'est formidable pour les personnes atteintes de maladies dégénératives. Mais est-ce qu'on peut autoriser l'utilisation de ces puces pour améliorer les performances de certains individus qui auraient les moyens de s'offrir ces super cerveaux ? Voilà le type de question qu'on peut trancher. La question toute simple, faut-il pouvoir faire tout ce que la science permet ? Qu'est-ce que vous y répondez ?
D'abord, merci de poser ces autres questions qu'on oublie parfois derrière les questions de société, qui sont aussi liées, les questions de société, disons, les plus brûlantes, qui sont aussi liées au progrès de la science, puisque les questions sur la procréation ne se posent pas sur le fait d'avoir des enfants en général, mais avec des techniques nouvelles, et même la fin de vie, par exemple, c'est parce qu'on a des moyens maintenant de maintenir la vie, des moyens médicaux, au-delà de ce que, disons, la nature rendrait possible et la mort suivrait sans la médecine. Donc toutes les questions sont liées à la médecine, mais il y en a beaucoup qu'on oublie. Et ces questions que vous venez de citer, qui sont aussi le lieu de grandes interrogations morales, faut-il faire des diagnostics anticipés ? On va aussi trouver dans le génome des choses qu'on ne cherchait pas, par exemple. Donc on peut chercher une maladie qu'il y a dans la famille, mais on peut trouver autre chose qui sera prédit dans 70 ans, qui arrivera dans la vie 70 ans plus tard. Ça pose des grandes questions et curieusement, on se concentre sur les deux arbres sociétaux un peu en feu qui cachent la forêt,
PMA,
qui n'est pas en feu. Voilà, mais en même temps, tout doit être traité dans un cadre clair,
alors
calme
répondez
et
clairement,
républicain, je dirais aussi.
Et de manière républicaine à ma question, faut-il pouvoir faire tout ce que la science nous permet de faire ?
La réponse est dans la question. Quand on pose la question, c'est comme un sujet de philosophie au baccalauréat, souvent on oriente. Évidemment que non. Si on pose la question...
Évidemment que non.
Oui, la science permet de faire des tas de choses que la morale réprouve. Je vais vous donner quelques exemples de consensus universel, parce qu'il y a des débats très violents. Mais par exemple, le clonage reproductif est possible techniquement. On peut prendre votre génome et refaire des Ali Badou parfaitement identiques.
Je ne le conseille pas.
Mais le cauchemar.
Ce qui est curieux, c'est de comprendre pourquoi ce point-là, par exemple, est universellement interdit. Et ça touche à des choses au fond. Même là, vraiment, il n'y a aucun débat, même international. Il n'y a pas un seul pays, donc on dit barbare ou mercantile, qui l'autorise. Ça touche à des choses très profondes qui touchent, à mon avis, par exemple, à l'importance de la diversité dans l'humanité. On ne veut pas se reproduire éternellement, justement. On veut varier, on veut changer. Donc ça touche à des choses. Mais ça prouve, au fond, c'est possible techniquement. Mais personne ne le fait et personne ne pense qu'il faut le faire. Donc, ça répond à la question type
non,
sujet de baccalauréat.
Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne le fera pas demain. Et ça ne veut pas dire que, en dehors d'espaces régulés comme la France
Vous
ou l'Europe,
raison.
Il n'y aura
Vous
pas d'autres
ça
espaces.
Ça veut dire qu'il faut toujours poser la question.
Les
et à propos de chaque possibilité technique, se demander si c'est souhaitable moralement et politiquement.
Natacha.
Ce que vous venez d'expliquer nous montre qu'une des difficultés immenses est en effet la diversité des conceptions qu'on peut avoir de la bioéthique. La France a été le premier pays à se doter d'un comité consultatif national d'éthique, mais à l'aune d'une certaine vision des questions de bioéthique. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que la bioéthique à la française a toujours été orientée par une vision inspirée des Lumières et peut-être même d'Emmanuel Kant et de l'impératif catégorique de Kant de ne jamais utiliser l'humain comme un moyen, mais toujours comme une fin. Et que ce n'est sans doute pas le cas de la bioéthique telle qu'elle se développe dans les pays anglo-saxons. Et je pense à la phrase du mathématicien Henri Poincaré, un million d'indicatifs ne feront jamais un impératif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça se fait que ça doit se faire. Or, nous sommes confrontés au fait que ça se fait ailleurs. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté.
Frédéric Worms.
En fait, je pense que la bioéthique, un peu partout, mais surtout en France en effet, n'est pas une éthique au sens d'un dogme parmi d'autres. C'est un cadre pour la discussion entre des positions morales différentes. Et dès le début, le comité consultatif d'éthique a compris dans son groupe des experts des questions médicales, parce qu'il faut bien savoir ce qui se passe, si c'est positif, négatif, si ça améliore ou pas la santé, mais aussi des représentants de différentes éthiques ou, disons, représentations morales de la vie, et même religieuses. Donc il y a toujours eu l'idée qu'il y a, sur certaines questions, une diversité que le politique ne suffit pas à régler, qui ne se règle pas par gauche-droite, par exemple, et qu'il y a une pluralité des visions de la vie, le pluralisme dans une démocratie. Et donc la bioéthique, ça n'est pas une de ces éthiques. C'est le cadre commun pour discuter entre ces éthiques.
Oui, mais comment trancher au nom de quels principes certains patients, par exemple, qui ont perdu la vue, peuvent bénéficier d'une rétine artificielle ? Mais imaginons par exemple que quelqu'un qui a déjà de bons yeux veuille aussi, lui aussi, bénéficier de ses implants. Il a les moyens de se les offrir pour voir encore mieux, devenir un excellent joueur de jeux vidéo par exemple, ou pilote de chasse, que sais-je. Au nom de quoi allez-vous lui interdire, Frédéric Worms ?
Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, il peut y avoir des positions différentes. Mais je crois que dans ce cadre commun, qui s'est construit progressivement en France, il y a au moins un point de consensus qui traverse justement toutes les éthiques, c'est que la priorité va à ce que j'appellerais l'éthique négative, c'est-à-dire à soigner des maux avérés plutôt qu'à chercher un bien absolu parfait. Et après, il y a une marge entre les deux, bien sûr.
Oui.
Il n'y a pas toujours le choix entre sauver la vie ou bien viser un délire. Entre les deux, il y a des choix un peu plus compliqués et qui peuvent être arbitrés, par exemple, dans le degré de remboursement de certaines choses. Mais je crois qu'il faut d'abord évidemment viser à soulager les maux évidents, les choses mortelles, les choses extrêmement graves, les pathologies avant le bien absolu. Et donc ça, je crois que c'est quand même un objet de consensus.
Mais vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un qui en a les moyens, qui a beaucoup de pognon, pour employer un mot qui traîne beaucoup dans le débat public ces jours-ci, de devenir une sorte de super-humain ou de surhumain.
Je crois qu'il ne faut pas forcément penser en termes d'interdiction de certaines choses. Il y a des choses qu'il faut interdire, hein, je ne dis pas le contraire. Il faut interdire du négatif, ce qui cause du tort aux autres. Mais ce qu'il faut absolument rendre possible, c'est que les moyens possibles pour empêcher des maux chez certains soient vraiment utilisés et soient aussi répartis de manière juste. Parce qu'il ne suffit pas de dire ça c'est bien parce que ça peut sauver des vies, mais voir que ça le fasse vraiment et que ça le fasse de manière juste pour le plus de gens possible.
Raphaël.
Déjà, il faut souligner l'importance de ce cadre-là, parce que ça montre qu'il y a, on peut le décrier absolument tout le temps, mais il y a quand même là une forme de modèle français, qui d'ailleurs se traduit sur la culture par l'exception culturelle, ce qui fait que certaines questions, certains biens de l'humanité échappent au marché. Et le questionnement éthique sur les avancées scientifiques, c'est la grandeur de ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on arrive à le faire plus ou moins échapper au marché. Donc la question, c'est ce qui est bon pour la cité et pour les individus, mais pour la cité en tant que telle. Et donc la grande question, c'est vrai, c'est...
Enfin, ce sont quand même très souvent des firmes privées qui mènent ces progrès spectaculaires dans la recherche
médicale. Oui, mais regardez le débat qui a lieu aujourd'hui en France. Ce qui est passionnant, c'est que c'est un débat qui est d'abord en termes éthiques, c'est-à-dire qu'il y a l'affrontement de points de vue différents. Et donc justement, ma question, c'est là, il y a eu une grande consultation, pour en revenir aux thèmes qui sont généralement abordés. Comment on fait quand des groupes se mobilisent, des groupes de pression se mobilisent pour imposer un point de vue qui, selon toutes les enquêtes d'opinion, n'est absolument pas majoritaire. Donc le problème de ces consultations éthiques, c'est aussi que ça donne d'abord la parole à des militants, en l'occurrence les militants anti-PMA, qui dominent largement la consultation, alors qu'elle ne domine pas l'opinion.
Frédéric Worms.
Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que ce qu'on avait discuté d'abord, c'est comment ce cadre éthique empêche non pas le marché, mais la guerre civile, qui est un danger encore plus grave que la marchandisation, qui est aussi un danger grave. Mais justement, ce qui se passe sur ces sujets, sur la PMA, par exemple, la procréation assistée, avec par exemple la question du don de gamètes, de sperme ou d'ovocytes pour les femmes, ce qui se passe, c'est qu'il y a un point de consensus, justement, qui est au-delà des clivages sociétaux et qui permet d'éviter la guerre civile, c'est justement le consensus de tout le monde sur le fait que ça doit être gratuit et que ça doit être opéré par le service public. Et donc, on pourra toujours discuter de ce qu'il faut autoriser ou non, de l'extension de l'usage, par exemple, du sperme ou des gamètes. En tout cas, il y a un consensus. Et en effet, c'est français. Et peut-être parce qu'il y a ce cadre commun à préserver qui est justement sur la gratuité, qui fait partie de l'idée même de don, hein, qui doit être gratuit, sur le fait que ces parties-là du corps humain, comme elles font partie de notre personne, donc d'un sujet, c'est pas des objets, ne peuvent être ni des objets d'un commerce, ni des prélèvements obligatoires comme les impôts. On va pas vous prélever votre sperme de façon obligatoire pour le répartir. Donc c'est ni une obligation légale, ni un objet de commerce. C'est en effet un don gratuit. Et là, vraiment, c'est intéressant parce que on dit toujours les Français sont pas d'accord, mais en fait, il y a des points, des colonnes vertébrales, des piliers de la maison.
Ouais, enfin, ils sont pas d'accord sur le fond.
Oui, mais dans la maison commune. Dans la maison commune. Et c'est quand même fondamental parce que on peut être en désaccord dans une maison. Dans les repas de famille, on n'est pas d'accord sur tout. L'important, c'est de pas faire s'écrouler la...
Oui, la question, c'est de savoir comment on évite de faire s'écrouler la maison commune, dans le sens où, aujourd'hui, on assiste à une globalisation culturelle qui fait que ces fondements même d'une conception spécifiquement française de ces questions-là sont parfois en train de vaciller. D'ailleurs, en termes médiatiques, ça se traduit toujours par l'idée « la France est en retard ». En retard par rapport à quoi ? La question est de savoir, encore une fois, ce qu'on définit comme un progrès. Et c'est vrai que c'est souvent sous la pression d'une conception qui est une conception très liée au marché.
Vous pensez à quoi, là, par exemple ?
Je pense
à la GPA ?
Non, je pense à absolument... Alors, entre autres, la GPA, je trouve intéressant d'élargir, justement, et Frédéric Worms commençait en disant « Ne nous focalisons pas sur ces questions sociétales, il y en a d'autres. »
Ah, mais c'est la raison pour laquelle j'ai démarré sur d'autres sujets.
Non, l'idée n'est pas de se dérober, mais par exemple, quand on a des chercheurs canadiens qui arrivent à récupérer sur Internet des morceaux d'ADN pour recréer le virus de la variole, qui est potentiellement excessivement dangereux et qui prouve donc qu'on peut le faire, d'ici quelques temps n'importe qui pourra le faire en laboratoire assez facilement, la question est de savoir qui régule. Or, ce qui en explique, c'est que les scientifiques appellent à l'aide et demandent aux politiques de réguler ce qui ne vient pas, parce que les politiques ont très peur de quoi ? D'être accusés d'aller contre le progrès.
Frédéric Worms.
Oui, je crois que les politiques en France... C'est évidemment, et ailleurs quand même un peu, c'est à cause de cette peur, créer des institutions qui leur permettent de créer un cadre pour imposer des limites. Et ce cadre a quand même une force. Alors évidemment, on peut toujours dire, ça n'est que la loi française, il y a un marché mondial, il y a la fraude surtout. En fait, ce qui est plus grave encore que le marché, c'est la fraude. C'est souvent le marché clandestin. Et de ce point de vue-là, on peut avoir l'impression qu'une loi dans un pays comme la France est une digue fragile face à un chaos mondial. Je pense que c'est le contraire. La loi a une force symbolique. Déjà en France, évidemment, c'est absolument fondamental, c'est un ciment. Et évidemment aussi ailleurs. Et finalement, au fond, ce qui est important, c'est que ce marché clandestin qui se développe, d'abord on lutte contre lui, mais pour lutter contre lui, il faut justement qu'il reste au moins clandestin, au moins illégal. Et ça, je crois que alors, d'autres pays ont d'autres méthodes. En France, effectivement, et je pense que c'est plutôt bien, on unifie ces questions dans une loi relative à la bioéthique depuis 2004. C'est assez récent, on a créé des institutions médiatrices, on a créé ce cadre de manière assez formelle. Dans les pays anglo-saxons, que je ne diabolise pas du tout, on procède différemment. C'est par cas. Il y a un cas qui fait scandale et on institue un peu une limite au cas par cas, mais finalement, ça marche aussi. Il n'y a pas de pays qui n'institue pas de limite.
Mais je reprends ma question, Frédéric Worms. En l'occurrence, qu'est-ce qui vous permettra d'empêcher un nouvel eugénisme ? Toutes les techniques qui permettent d'améliorer le patrimoine génétique d'un individu, de l'espèce. Qu'est-ce qui vous permet d'empêcher que ça ait lieu et que certains puissent se l'offrir ?
C'est d'abord d'éviter le tout ou rien. Parce qu'en fait, dans ces questions-là, l'eugénisme par exemple, est-ce qu'il faut ou pas modifier le génome ? Il y a des gens qui vont dire non, il ne faut pas parce que c'est tabou, ça et puis on va vers une pente fatale, c'est-à-dire chacun fera ce qu'il voudra. Et il y a des gens qui disent il faut, et pourquoi est-ce qu'ils disent il faut ? C'est pas des méchants, c'est pas des fous, c'est pas que des transhumanistes délirants, c'est parce qu'avec ça on sauve des vies. Et c'est pareil avec les big data qui vont être très dangereuses pour surveiller nos vies mais qui vont permettre à certains cancers d'être soignés alors qu'avant on ne pouvait pas. Et donc le rôle d'un comité d'éthique, c'est de marquer des limites sans céder à l'intimidation, ni d'un côté ni de l'autre. Et pour prendre des exemples très précis, je pense effectivement que le choix des gènes, à supposer qu'il y ait un jour un choix à faire dans certaines catégories, doit être encadré par des agences. Aujourd'hui, par exemple, les couples hétérosexuels ont le droit de faire appel à l'insémination avec donneur. Il y a certains paramètres d'ajustement que les médecins peuvent faire, en fonction, par exemple, de critères qu'on pourrait contester d'ailleurs, mais disons de couleur de peau par exemple, ça se fait dans les décès-causes français, mais le jour où les parents disent moi je veux telle couleur de peau, moi je veux tel un garçon ou
une
fille,
je veux les yeux bleus, je veux une fille,
ça c'est interdit en France. Ça veut bien dire que l'État sait poser des limites. Moi je pense que le pire ce serait de dire tout est mal, parce que ça renforcera ceux qui disent tout est bien, parce que ceux qui disent tout est bien veulent nous sauver la vie, le prétendent en tout cas.
Raphaël, Natacha ?
Mais il y a des moments où ça peut réellement sauver la vie. C'est ça qui fait la force de leur discours. C'est pour ça qu'il faut un cadre qui tienne les intérêts du marché en dehors de ces processus de décision. Maintenant, sur le fond des questions qui ont été soulevées, il y a quand même des décisions qui vont être prises. On peut en parler. C'est-à-dire que...
Pas par le comité, ni
non,
par moi.
Non, pas par le comité, mais par le politique.
Par le législateur.
Ouais, le comité est sage, il ne décide pas.
Oui. Il conseille et il encadre. Et il a consulte. Deux fonctions maintenant.
Il est consulté.
Il consulte et il organise le débat.
Vous avez une autre casquette qui est celle d'un philosophe qui réfléchit aux questions de société. Et donc, la question, c'est comment et au nom de quoi on refuse des progrès ou des demandes ou des droits à des citoyens et des citoyennes qui, par ailleurs, ne nuisent pas à autrui dans l'extension de ces droits.
La GPA,
l'extension de la PMA. Moi, c'est quelque chose.
Couple de lesbiennes.
Bah oui, mais c'est quelque chose qui, a priori, ne heurte aucun autre droit dans la société française.
Bah, laissez Frédéric Worms vous répondre.
Ce qui serait amusant, ce serait de prendre les deux exemples, si vous me permettez, en une seconde. La PMA, c'est donc l'extension de l'insémination de sperme dans le corps d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant pour telle ou telle raison. Et la GPA, c'est le recours à une mère porteuse.
Ouais.
Donc c'est un peu différent, puisque c'est non seulement on recourt à une technique, mais pour l'insémination, mais aussi pour la grossesse elle-même. Et après, l'enfant est donné, disons, aux parents qui l'ont demandé. Ce qui est intéressant, et là je parle autant à titre personnel qu'à titre de membres du comité, puisque j'étais rapporteur et que c'est très clair, c'est marqué, j'ai approuvé ces deux avis, c'est que le comité d'éthique n'a pas rendu le même avis sur ces deux questions. Ça veut bien donc dire qu'on regarde technique par technique. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un critère extrêmement simple qui n'est pas métaphysique finalement, qui n'est pas sur une conception de la vie avec un grand V, pour le meilleur ou pour le pire, qui est plutôt relationnel, social, c'est-à-dire on regarde sujet par sujet, quel tort on fait à quelle personne, au nom de quel bien. Et ce qui apparaît, d'une certaine façon, au moins cette majorité de ce comité-là qui a rendu cet avis consultatif-là, et puis après, la France fera avec sa procédure, l'important c'est la procédure pour arbitrer, c'est de voir dans quel cas qu'est-ce qui se passe. Ce qui apparaît, c'est que la GPA, donc la gestation pour autrui, pose un problème, et par exemple dans la relation de la grossesse elle-même entre la femme et l'enfant, et dire qu'il n'y a aucune relation est quand même un peu compliqué, dire que c'est un service parmi d'autres pose un problème, voire un problème de fond, voire un problème de principe. En revanche, il n'est pas même possible de dire que l'insémination comme telle pose un problème, puisqu'on l'autorise déjà pour les couples hétérosexuels. Donc pour les couples de femmes, on a plutôt une question sociétale. Qu'en sera-t-il de l'enfant après ? Est-ce que ça pose des problèmes ? Sans doute. Le comité d'ailleurs dit que ça peut poser des problèmes. Est-ce que ça pose un problème de principe qui interdit le geste technique lui-même ? Le comité dit que non.
Natacha.
Deux questions rapides. La première, vous venez d'évoquer le fait, le lien qui se noue dans la grossesse. On va, à plus ou moins long terme, vers l'utérus artificiel. puisque on rallonge petit à petit les délais en début de grossesse où on est capable
vers
d'élever...
Vers la technique, pas forcément vers l'autorisation.
Oui. Alors justement,
ne cédons pas à la panique, justement.
Voilà, justement, la question est de savoir, à partir du moment où ça réglera certains problèmes, forcément, est-ce que pour autant, on peut considérer que ça doit être autorisé dans la mesure où, en effet, nous ne mesurons pas ce que ça fait pour un être humain que de naître après n'avoir pas été porté par une mère. Et deuxième question, on voit naître aux États-Unis ce qu'on appelle des fermes de chimères, c'est-à-dire où on élève des animaux en modifiant leur génome, en introduisant des cellules souches humaines pour cultiver des organes humains, pancréas, foie, etc., dans le but de les implanter ensuite et de combler le déficit d'organes. Et certains parlent même à terme, parce que ce serait très facile à faire, de faire un chimpanzé à visage humain pour des greffes de peau de visage. C'est faisable. Et aux États-Unis, c'est potentiellement accepté, puisque tout ce qui est faisable est accepté.
Et on retrouve ma question initiale, Frédéric Worms.
Voilà, comment résout-on ces questions-là, et en particulier maintenant qu'on a une certaine réflexion sur l'éthique animale?
Vous avez 2 minutes.
Oui, en tout cas, je ne crois pas que ce soit vrai de dire nulle part, même dans des pays qui sont les pires de ce point de vue-là, comme la Chine, par exemple, qui maintenant installe certains lieux d'exécution de la peine de mort dans les sous-sols des hôpitaux pour le trafic d'organes. Même dans ces pays-là, il y a des interdits. Aux États-Unis aussi, il y a des limites. Et tout ce qui est faisable ne sera pas fait. Et en France, en tout cas, il est certain que là aussi, on retrouve cette question, il y aura des interdits. Et là aussi, il faut absolument regarder au cas par cas. Les exemples que vous citez, pour moi, ne posent pas de problème, justement parce qu'ils vont poser des problèmes. Il est évident que l'utérus artificiel posera des problèmes, que le deuxième problème que vous évoquez aussi, qu'un problème proche, par exemple, est en train d'être redéfini aussi, la question des cellules souches. Issus des embryons, puisque, comme vous savez...
Mais ne multipliez pas les sujets. Bon, restons par exemple sur celui des chimères.
Oui.
Il faut interdire le fait qu'on fasse pousser, par exemple, un rein ou une oreille sur un animal pour pouvoir le greffer à un être humain qui en a besoin. Ça correspond à peu près à tous les critères que vous avez définis tout à l'heure. La possibilité de soigner et de ne pas nuire à
autrui. Au minimum, il y aura des façons de le faire qui seront interdites et des agences qui seront chargées de l'encadrer. Si je vous disais tout de suite qu'il faut absolument l'interdire parce que ça transgresse notre conception de l'être humain, une idée anthropologique, on n'aurait peut-être jamais fait de greffe tout court. C'est quelque chose de très étrange, l'idée de greffe du visage qui se pratique aujourd'hui. Si vous m'aviez dit, peut-être il y a 10 ans, est-ce qu'il faut faire une greffe du visage? Est-ce qu'il faut prélever le visage d'un être humain décédé pour soulager la terrible... Peut-être on trouve ça terrible, et puis c'est très vrai que c'est très très dur à vivre. Mais je pense qu'au minimum, il faudra des procédures extrêmement strictes pour l'encadrer. Mais les greffes, effectivement, spécifiques entre les espèces posent des problèmes majeurs. La question de l'espèce est dans la loi de bioéthique, la préservation de l'espèce humaine, la préservation du génome.
C'est vertigineux et c'est passionnant. C'est très loin d'être la fin du débat.
Mais faisons confiance aux institutions et aux procédures, c'est fondamental.
Ok. On a envie de vous dire d'accord. Merci Frédéric Worms d'avoir été notre invité. Natacha, je vous retrouve dimanche prochain pour une émission spéciale en hommage à Simone Veil, le jour de son entrée au Panthéon. Et à tous les deux, Natacha, Raphaël, je vous donne rendez-vous à la rentrée. C'était un bonheur de passer cette saison avec vous. Merci à Ophélie Vivier, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Maximin Grand. À suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière.